Aujourd'hui, cet épisode a pour but de montrer la complexité de vendre et de mettre en place un outil SaaS qui touche l'organisation complète d'une direction juridique ou d'un cabinet d'avocats. Bonjour Chris.
Bonjour Charlotte.
On va parler aujourd'hui de l'aspect commercial et onboarding du client quand on vend un logiciel SaaS. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter?
Déjà, pas de souci. Je m'appelle Chris. J'ai débuté mon parcours universitaire par une formation en droit et j'ai obtenu un master 2 en droit privé. Par la suite, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour une compagnie d'assurance au sein de leur protection juridique. Donc, on va dire un parcours un peu classique pour un juriste. Et après cette expérience, c'est là où j'ai un petit peu bifurqué. J'ai toujours été très intéressé par l'informatique et donc j'ai décidé de faire une formation de 7 mois comme concepteur développeur d'applications. Donc c'est un titre professionnel où j'ai pu apprendre à développer et notamment et surtout apprendre la gestion de projet, donc gestion de projet informatique. Donc une formation qui était vraiment très intéressante. Et du coup, par la suite, j'ai un peu naturellement intégré Legal Pilot, qui est une Legal Tech. Et en fait, qui est l'environnement parfait, qu'il y a à la fois le juridique et les nouvelles technologies. Donc, je me retrouvais à la fois dans ma formation de juriste et à la fois dans ma nouvelle formation en informatique.
Donc maintenant, tu as le titre d'ingénieur juridique, me semble-t-il.
Oui, alors c'est le nom de mon poste sur Legal Pilot. Donc, c'est en fait pour lier justement cette notion de juriste et à la fois de personne qui fait de la gestion de projet, qui fait de la conception d'outils et d'applications. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu ce terme d'ingénieur juridique.
Ok, bon, moi je trouve que c'est très très classe.
moi aussi, ça me convient.
Ok, et pour qu'on comprenne mieux en quoi tu es utile, est-ce que tu peux nous rappeler la proposition de valeur de Legal Pilot justement?
Oui, en fait, Legal Pilot a conçu un outil qui vise à assurer une meilleure gestion de la production documentaire à destination des juristes, des avocats, des directions juridiques. Donc, la principale fonctionnalité de notre logiciel, c'est d'automatiser la production d'actes. En gros, pour simplifier, vraiment pour faire simple, le but de notre logiciel, c'est de générer instantanément des contrats et des actes juridiques. Ça peut être des conventions d'honoraires, des contrats de service, des constitutions de société, des assignations, etc. N'importe quel type de document juridique. Par la suite, notre solution aussi vocation en fait à constituer un espace de travail unique pour toute la production documentaire au sein d'une équipe. Ça permet d'assurer le suivi des documents, la négociation, la signature électronique, etc. Donc vraiment un espace de gestion des documents pour l'équipe juridique. Et donc, tu me posais la question vraiment par rapport à la proposition de valeur, parce qu'on est plusieurs dans le secteur à faire aussi de l'automatisation, de la gestion de documents. On va dire que Legal Pilot s'est orienté autour de 3 axes. La première, c'est le gain de temps qu'on va faire gagner aux clients dans la production de documents. Forcément, l'automatisation, c'est son but premier. Deuxième, c'est assurer la sécurité dans la gestion des documents au sein d'une équipe. Donc, ça, notre logiciel a vraiment vocation à renforcer cette sécurité-là. Et la proposition de valeur particulière de Legal Pilot, je pense, c'est l'accompagnement client de tous nos clients pour en fait être tout le temps présent, pour répondre à leurs questions, pour assurer la réussite de leur projet. Nous, on fait du suivi de projet, de la gestion de projet d'automatisation. On est vraiment, il y a certains clients, on est très souvent en contact justement pour assurer tout ça. Et le but vraiment, c'est d'assurer une autonomie la plus complète possible du client sur le logiciel, qu'il soit tout à fait capable de l'utiliser et qu'on intervienne ponctuellement pour faire du suivi de projet, s'assurer que tout va bien, voir est-ce qu'on peut développer un peu leur activité d'automatisation. Voilà un peu okay.
Oui, en fait, il y a une forte implication. Il n'y a pas que l'outil, il y a quelque part même du consulting derrière de votre part.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Donc, moi, je suis convaincue que l'outil est très bien. Par contre,
j'en suis convaincue aussi.
Par contre, il ne suffit pas juste d'appuyer sur un bouton. Ça demande quand même une sacrée réorganisation en interne de la part du client et une remise en cause également. Et justement, comment tu fais pour vendre un tel outil?
Alors, dans un premier temps, Et c'est vraiment le plus important, on va vraiment être à l'écoute de ce que va nous dire le prospect. Donc là, ça fait un petit peu phrase passe-partout, être à l'écoute du client, etc. Mais au final, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire, on va essayer de savoir comment il est organisé, qu'est-ce qu'il utilise comme outil. On va vraiment essayer de savoir les difficultés qui nous fait remonter par rapport à ses besoins, à son service, vraiment tous les problèmes qu'il a. Et c'est là où on va se rendre compte, en fait, est-ce que déjà l'outil est adapté ou non au client? Et là, on n'hésite pas à le dire clairement, si on se rend compte que l'outil n'est pas adapté à sa situation, on ne va pas chercher à le vendre, parce que ça
D'accord.
n'aura pas d'intérêt, que ce soit pour lui ou pour nous. Et puis, si jamais, par contre, il va nous faire remonter, des difficultés, spécifiques, et qu'on se rend compte que notre logiciel peut y répondre, bah c'est là justement où on va se charger de lui indiquer bah, tout ce que notre logiciel peut faire. On va lui faire une démonstration. Donc c'est un peu ce que je disais, on ne va pas chercher à tout prix à convaincre le client parce que notre souhait vraiment, et ce qui arrive en fait par rapport à la plupart de nos clients, c'est que c'est le prospect qui va lui-même se forger sa décision de se lancer. Avec ce qu'on va lui dire et ce qu'on va lui montrer, il va de toute façon se rendre compte lui-même si ça va lui être utile ou pas pour gagner du temps, pour résoudre ses problèmes, répondre à ses besoins. Donc c'est pour ça
OK.
que nous, on essaye plutôt de dire bah, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lui propose, et puis après, on le laisse décider de prendre la solution ou pas.
Vos clients actuels, ils vous ont trouvé comment aussi en amont? Est-ce que c'est par
Ah.
LinkedIn? Est-ce que c'est la notoriété des fondateurs aussi qui joue un rôle?
Il y a plusieurs voies possibles pour les clients. Donc, on fait beaucoup de communication, notamment sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Donc, déjà, on a aussi, en fonction de notre communication, des personnes qui vont être intéressées pour avoir une démonstration par rapport à notre logiciel. On a aussi, du coup, bah, des fondateurs qui ont un grand réseau et qui peuvent aussi convaincre des personnes bah, de venir tester le logiciel, de l'utiliser. Notre site internet aussi est de plus en plus populaire, c'est-à-dire que lorsqu'on tape des mots-clés sur Google en termes d'automatisation, de gestion de documents pour les juristes, bah, on va aussi tomber beaucoup sur des articles de Legal Pilot sur notre site internet. Donc on a aussi, sans qu'on fasse la moindre communication, sans qu'on les connaisse, des personnes bah, qui vont aussi juste faire des recherches et tomber sur nous. Il n'y a pas une seule voie par laquelle les clients arrivent. En général, ça peut arriver de plusieurs manières différentes.
Combien de temps vous mettez pour closer? Est-ce que tu as une petite idée? Bon, alors ça dépend de la taille du client, etc. Mais j'imagine que tu closes pas en 3 jours, quoi. C'est peut-être un peu plus long.
Bah, pas forcément, on peut closer en 3 jours, ça dépend vraiment des clients. Par exemple, là, cet exemple de 3 jours, un avocat qui a besoin que d'une seule licence parce qu'il veut automatiser juste quelques documents, bah, des fois, il suffit juste de lui faire une présentation du logiciel et il arrive à voir que ça lui convient, il va tester, il va prendre une licence et il va se lancer. Donc, ça peut arriver. Par contre, oui, pour les plus grandes organisations, celles où il y a vraiment une modification de l'organisation et vraiment c'est un nouvel outil qui veulent mettre en place dans l'entreprise. Là, oui, c'est très rare que ça se passe en 3 heures. Ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois. On a des clients, on a mis plusieurs mois à closer parce que on a vraiment enchaîné les démonstrations. Et le fait aussi que ça doit remonter la chaîne hiérarchique. On fait des démonstrations, des fois aux juristes, puis après aux responsables de pôle, puis ça peut remonter jusqu'au directeur général qui, lui, veut aussi vérifier la solution. Parce que là, ça demande beaucoup de réunions. Et vu que ça demande un grand changement dans l'organisation interne, ils veulent être sûrs de leur coût. Et du coup, c'est pour ça qu'ils mettent du temps à closer. Comme je disais, dans tous les cas, nous, on n'est pas figé dans notre processus de closing. On n'a pas un script précis qu'on doit respecter par rapport au closing. On va essayer finalement de répondre au mieux aux besoins, aux attentes du client. Donc, on n'hésite pas à rallonger s'il faut la durée du closing parce que c'est un client qui a plus de un peu plus apeuré ou qui a plus de difficultés à se lancer, on n'hésite pas à rallonger un peu la durée du closing.
Ce que je voulais montrer, c'est que finalement, tu peux mettre 6 mois avec des allers-retours à faire tester l'outil. Tu fais quand même
Oui.
beaucoup, beaucoup de choses, alors que rien ne te garantit à la fin que tu
Oui.
puisses signer. C'est ça.
Oui, bah, c'est un peu le jeu, hein, j'ai envie de dire. Il faut aussi se donner les moyens parce que si on considère qu'on ne passe pas plus de 2 semaines sur un client et qu'on s'arrête si jamais il n'a pas signé, bah, du coup, on ne signera jamais de très gros clients qui pourraient être intéressés et vouloir aussi beaucoup de licences. C'est un peu le jeu. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Après, on le sent aussi, hein. Si ça dure pendant plusieurs mois, c'est qu'on a aussi affaire à un client qui n'a pas que ça à faire, que perdre son temps en réunion. Donc, plus ça dure et plus il y a aussi la vocation, si tout se passe bien, à accepter et à prendre une licence.
Là, tu dois avoir assez de recul maintenant pour identifier les objections les plus courantes à lever, non?
Oui, parce on a beaucoup de rendez-vous clients, donc on commence un peu aussi à savoir bah, quelles sont les objections les plus courantes, même si c'est très variable d'un client à l'autre. La principale, ça va être la peur du changement chez le client, et notamment que le logiciel ne soit pas conforme à 100% à ses attentes. Là, c'est vraiment quelque chose, on doit essayer de rassurer au mieux, entre guillemets, hein, le client, bah, justement, en lui indiquant que le logiciel a été conçu spécialement pour répondre à ses besoins, qu'il est évolutif, qu'on a toujours su trouver des solutions par rapport à nos autres clients. Donc ça, c'est essayer de vraiment le rassurer par rapport à ça. Et la deuxième inquiétude la plus qu'on remarque le plus, c'est la peur de ne pas réussir à se servir du logiciel. Même si c'est un logiciel no code, qu'il ne faut pas être informaticien pour l'utiliser, il y a toujours cette inquiétude de dire, est-ce que je vais réussir à l'utiliser? Est-ce que je ne vais pas payer dans le vent une licence d'un logiciel que je n'arriverai jamais à utiliser? Et c'est justement, c'est ça qui fait un peu le lien avec notre accompagnement client, et c'est pour ça qu'on met l'accompagnement client au cœur vraiment du parcours. Bah, c'est être sûr qu'il va réussir à utiliser le logiciel et qu'on n'hésite pas à faire des points régulièrement avec lui pour lui montrer, pour répondre à ses questions, pour être en support.
Ok, ben c'est top, c'est le parfait pour faire le lien avec mon autre question.
Ah, très bien.
Donc une fois que c'est vendu, donc j'ai bien compris que la partie n'était pas du tout gagnée. Et donc ouais, raconte-nous comment se passe un onboarding.
Déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Une fois qu'on a vendu le logiciel, la partie n'est pas gagnée. Parce que même si on a essayé d'être sûr que le logiciel lui convient, bah après, il faut être sûr aussi qu'il puisse l'utiliser correctement. Donc, le but de l'onboarding, déjà, pour définir un petit peu, c'est d'expliquer concrètement comment se servir du logiciel, lui expliquer, le former à l'utilisation du logiciel. Nous, on l'organise en deux formations. Ça va être deux formations d'1 heure. On ne fait pas d'onboarding générique avec un script parce que déjà, on se dit sinon, il suffirait juste d'envoyer, de se l'enregistrer une fois et de l'envoyer en vidéo et finalement, ça nous ferait gagner du temps. Non, ce qu'on fait, c'est en général, c'est qu'on va vraiment se focus sur tout ce que le client nous a remonté et on va l'aider en fait à démarrer son activité sur le logiciel. Donc, c'est-à-dire, on va lui demander quel document il utilise, comment il est organisé dans l'équipe, et on va générer son espace de travail, on va commencer à générer des documents avec lui, à modéliser avec lui, à lui montrer comment ça fonctionne. Et comme ça, une fois que la formation est terminée, eh ben, il n'a pas juste terminé une formation théorique de 2 heures et puis allez, il se lance sur son espace qui vient juste d'être créé, il continue ce qu'on a fait pendant 2 heures. Et ça, c'est notre façon de faire qui fonctionne bien et qui est appréciée des clients parce qu'on se lance direct. Voilà, c'est pareil. On a tous plus ou moins apprécié l'école. Et du coup, juste faire de la théorie pendant 2 heures, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc, se lancer vraiment dans le logiciel en l'expliquant, c'est quelque chose qui plaît en général.
À la limite, quand c'est juste un avocat qui te sollicite, ça va, mais quand en interne, tu as en fait toute une équipe de juristes à former, c'est pareil, tu les formes, tu formes l'équipe juridique, par exemple.
Oui, on peut faire soit des formations d'une seule personne, mais on peut faire aussi des formations groupées. Dans ce cas-là, on met plus de temps, on met 3 heures au lieu de 2 heures en général pour former, parce qu'il y a plus de questions, il y a souvent plus d'échanges, que ce soit entre eux, avec nous. Mais c'est un logiciel nous, qui est conçu pour être facilement utilisable. C'est un logiciel qui est conçu d'ailleurs pour être utilisable sans formation. On a des clients qui n'ont pas besoin d'onboarding, qui se
D'accord.
lancent directement. Certains se sont inscrits ont pris une licence via le site sans jamais nous contacter et ont commencé leur modélisation sans
C'est
jamais nous
bien.
contacter derrière. Et voilà, et qui se sont lancés. Éventuellement, on leur envoie quand même, on échange un petit peu, voilà, pour savoir si tout se passe bien. Ils disent que tout se passe bien, et puis voilà. Donc du coup, c'est pas problématique de faire des onboardings de groupe. Et même, je trouve ça en général plus intéressant parce qu'il y a de la discussion entre eux sur les fonctionnalités. Et du coup, c'est souvent plus, on aborde souvent plus de points, plus de choses quand il y a plusieurs personnes en face de nous.
Qu'est-ce qui apporte le plus en termes d'automatisation?
Le gain de temps, c'est vraiment, c'est pas forcément le plus important pour tous nos clients d'ailleurs, mais c'est quand même, voilà, c'est un intérêt principal. À partir du moment où le document et la plupart des champs du document vont être complétés automatiquement, ça va gagner du temps et ça va faire aussi gagner entre guillemets, de l'énergie aussi au client, de ne pas avoir à faire des tâches répétitives qui ne sont pas forcément très intéressantes intellectuellement. Et du coup, avec l'automatisation, la phase de rédaction va vraiment être cadrée. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir à vérifier, relire le document, vérifier s'il n'y a pas de coquilles, des oublis, parce que le logiciel va vraiment être conçu pour simplifier la rédaction et aussi la relecture derrière. Donc c'est un gain de temps à deux niveaux. Et puis, ça, il y a moins de risque d'erreur. Si tout est cadré par un logiciel, l'erreur est beaucoup plus souvent humaine qu'informatique. Donc, le logiciel, en général, il fait beaucoup moins d'erreurs de rédaction que l'humain. Donc, ça limite les risques d'erreur juridique dans les documents. Si on prend en exemple une constitution de société ou une assemblée générale, ce qui comporte jusqu'à une dizaine de documents différents, et ben nous avec notre logiciel, si on importe les données clients via la base de données, en 10 minutes, un client peut générer une assemblée générale ou une constitution de SAS par exemple, là où il lui faudrait des fois peut-être plusieurs heures pour le faire sans logiciel, parce qu'il va devoir relire et faire à la main tous les documents. Donc c'est pour ça qu'au-delà de la gestion du temps, c'est surtout l'aspect plateforme documentaire tout en un qui est vraiment apprécié par nos clients. Parce que nous, on rencontre, de toute façon, les anecdotes qu'on ressort de nos clients, c'est la galère qu'ils ont pour retrouver des contrats, des devis qui n'ont pas été stockés, qui sont sur des ordinateurs personnels, etc. Et là, le fait d'avoir une plateforme pour toute l'équipe, avec un espace unique où ils savent que toute leur production sera triée dessus, avec un moteur de recherche qui peuvent y accéder 24 heures sur 24, bah là du coup ils sont plutôt contents et il n'y a plus le risque finalement qu'un document se retrouve sur un espace, sur un PC personnel et qu'il faille attendre les retours de vacances de Martin avant de récupérer le devis ou le contrat. Donc c'est cet aspect-là qui est aussi important pour nos clients.
Ouais, je pense qu'il y a vraiment un avant après, un avant Legal Pilote et un après Legal Pilote en termes aussi de charge mentale.
Oui, ça dépend des clients. Vraiment, certains vont juste le voir comme un outil un peu complémentaire pour automatiser un peu la rédaction de certains documents. Ils vont l'utiliser comme ça, un peu à côté. Mais pour d'autres, ils vont vraiment, oui, changer leur manière de rédiger. Ils vont vraiment utiliser Legal Pilot pour faire toute leur rédaction juridique. Ils vont faire de Legal Pilot un espace de travail de gestion de documents.
On arrive sur la fin. Est-ce que tu aurais une dernière annonce à nous faire? Je ne sais pas, une nouvelle fonctionnalité? Est-ce qu'il y a des embauches? Est-ce qu'il y a un événement en particulier? Dis-moi tout.
Alors, roulement de tambour, voilà la dernière petite annonce. Oui, en annonce, qu'on peut faire, c'est qu'actuellement, on est sur la bêta de la V2 de notre logiciel. Donc, on a prévu plein de nouvelles fonctionnalités par rapport à la gestion de contrat. Donc, vraiment l'aspect gestion des documents, suivi des documents, signature électronique, la négociation et une modélisation qui est simplifiée au maximum pour nos prospects et nos clients. C'est-à-dire qu'on prévoit vraiment des fonctionnalités où on importe le document Word et il est quasiment automatiquement généré à l'intérieur de notre logiciel. Donc ça, c'est vraiment
Bien.
notre plus grande fonctionnalité sur laquelle on est vraiment content. Et là, donc, on est en pleine bêta. L'annonce, c'est que si jamais vous êtes intéressé pour tester le logiciel pendant la phase de bêta, bah, nous, on est disponible. Les places ne sont pas illimitées parce que ça nous demande quand même du travail de gérer les bêta-testeurs, les retours, etc.
Ouais,
Mais
et puis
ne pas
une bêta,
hésiter
ça
à.
fait mal, hein. Ça fait mal parce qu'on voit tous les bugs, tous les trucs qui vont pas.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis bien que c'est une bêta. Je ne vous demande pas de tester la version 2 de notre logiciel. Là, ce sera plutôt au niveau septembre-octobre. Mais bah, si ça ne vous fait pas peur d'avoir des bugs et juste de pouvoir tester, il n'y a pas de souci. Sachant que nous, ce qu'on dit toujours, c'est que à nos bêta-testeurs, c'est que s'il y a des fonctionnalités qui les intéressent et qui ne sont pas encore dans le logiciel, mieux vaut être dans ce stade-là de bêta-test parce que le développement est à 100% et qu'on est à fond sur les fonctionnalités. On peut les rajouter facilement dans le logiciel. Donc voilà, si vous voulez tester le logiciel, bah, c'est l'occasion aussi de faire vos retours sur ce que vous voudriez et ce que vous aimeriez que soit dans le logiciel en termes de fonctionnalités.
Ok, bah c'est le mot de la fin. Merci Chris.
Merci à toi.
À bientôt.